Je suis indignée par les déclarations de Monsieur Sarkozy qui demande aux Français de s'endetter pour consommer. C'est-à-dire qu'ils paieront les articles qu'ils achèteront deux fois plus cher qu'en réalité. Monsieur Sarkozy me fait penser à Monsieur Berlusconi. C'est un deuxième Berlusconi. Attention Français, ne l'écoutez pas trop.
Moi, je viens faire un petit commentaire par rapport à l'article qui est paru dans le Canard sur la famille Sarkozy et puis ses délires de dépenses. Moi, j'appartiens au ministère des Finances et j'invite Monsieur Sarkozy à venir voir un petit peu comment on travaille dans ses services, c'est-à-dire avec les moyens avec lesquels on est tenu d'assumer nos missions tous les jours. Nous, par exemple, on est un petit poste, on est entassé à neuf dans des locaux qui sont exigus, on a du matériel informatique qui est à la limite d'être obsolète, on n'a pas de calculatrice pour faire nos comptes de l'État et des collectivités qu'on doit assumer tous les jours. Voilà, c'était juste un petit commentaire par rapport aux moyens qui sont dépensés dans les ministères. Merci, au revoir.
Bonjour, pour vous remercier d'une superbe émission que je viens d'écouter sur les soins palliatifs en milieu hospitalier de nuit et un superbe voyage dans l'émotion et dans la générosité. Merci encore pour cette émission. Au revoir.
Tout d'abord, je voudrais féliciter et être reconnaissant à toutes mes collègues infirmières de nuit, car c'est vraiment un boulot que j'ai fait pendant un bout de temps. Maintenant, je suis en libéral et je ne le regrette pas. Mais immense respect pour ces jeunes femmes, les femmes qui se donnent à fond pour calmer la détresse des patients. Et puis autre chose, maintenant que je suis en libéral, je voulais vous rappeler, enfin me faire part d'une anecdote. Une fois vous avez parlé du tueur de cochons, on l'appelait le Seigneur. Et bien quand je fais les prises de sang à mes patients, je leur dis priez le Seigneur que je ne vous rate pas. Et généralement ça se passe bien. Voilà, c'est Marcel, infirmier libéral dans l'Est, Stationville. Au revoir.
Allô, bonjour, et ben voilà, moi je m'appelle Dominique, je viens d'écouter votre émission sur infirmière de nuit. Bon, moi je suis moi-même infirmière de nuit et je me suis complètement retrouvée dans cette ambiance, dans ce rapport entre humains, personnes. Ce soir, je vais donc partir moi aussi travailler. Je travaille en psychiatrie et actuellement, ben justement, ce soir, c'est l'éclipse de lune. C'est là où tout ressort, où les patients viennent nous dire leurs mots et ben du cœur, leurs mots difficiles. Et c'est un métier magique qui tous les jours m'apporte, me grandit et me fait vivre des moments de bonheur, de joie, de souffrance, tout ce qui est toute une vie. Et vraiment, je ne regrette pas ce que je fais. Ce n'est pas un sacerdoce, comme on peut le dire, mais c'est qu'une joie, une joie de vie de tous les jours. Voilà, je m'appelle Dominique et je ne suis qu'une petite infirmière parmi le monde des infirmières et j'aime vraiment ce que je fais. Voilà. Et je suis une petite étoile qui, dans le monde des étoiles, essaye de faire briller une autre étoile un peu plus. Voilà. À bientôt. Au revoir.
Bonsoir, je suis Jacques de Vendée. J'appelle parce que je lis actuellement la biographie de Jean-Jacques Pauvert et je fais le rapprochement avec les accusations qui sont portées contre les soldats américains et je vois que Jean-Jacques Pauvert fait état d'accusations aussi graves dans le comportement des soldats américains à la libération de Paris. Je vous remercie. Au revoir.
Bonjour Daniel Mermet. À l'heure des réjouissances de l'élargissement de l'Europe, une fois de plus, la droite française qui nous dirige a montré son vrai visage, celui de la xénophobie. Cette nuit, une soixantaine de Roms ont été expulsés de leur baraquement à Thiers. Le terrain qu'ils occupaient illégalement appartenait à la municipalité, terrain coincé entre une bretelle de nationale et une bretelle d'autoroute. Parmi eux, des femmes enceintes, des enfants, dont certains sont scolarisés, des vieillards. Les plus fragiles se sont réfugiés par petits groupes dans d'autres camps. Les autres se sont regroupés près d'un parking de la cité Balzac à Vitry, s'abritant de la pluie dans un lavomatique. Le comité de soutien, Médecins du Monde, sont mobilisés auprès d'eux, mais pas l'ombre d'un responsable politique. fut-il municipal. Comme d'habitude, on expulse d'abord, ensuite, après des heures, voire des jours de transactions, on essaye de recaser. Quelle politique honteuse à vous faire honte d'être français.
Fatima, bonsoir. Depuis ce matin, je me suis levée très très tôt ce matin, j'entends parler que de Sarkozy, il m'énerve ce mec, mais alors il m'énerve comme c'est pas possible. Et alors je voudrais lui dire, avec ses petites mesurettes là, qui voulait qu'on consomme, il y a un truc à...
Le crédit de votre correspondant est épuisé, cette communication va se terminer dans 15 secondes.
Et ça, c'est pas un montage, hein. Là, l'auditrice a vraiment été coupée par son propre manque de batterie sur son portable. Voilà, elle voulait nous parler de l'hyperconsommation. Elle s'est fait couper par un objet qui est le symbole de la consommation. Pas mal de messages, hein, sur le répondeur de la base. J'y suis. Effectivement, on a des documents tout à fait accablants sur le comportement des GIs à la... lors du débarquement et après le débarquement, des documents d'enquête faits par des criminologues et sociologues américains, notamment en matière de viol envers des femmes, aussi bien en France, en Angleterre qu'en Allemagne. On avance le chiffre de 17 000 femmes qui auraient été violées par les GIs à la libération. Voilà, mais c'est évidemment, les GIs n'ont pas le monopole de ce genre de crime, mais effectivement, c'est quelque chose à quoi on peut penser ces jours-ci. Et puis, à nouveau, un pogrom, il faut appeler les choses par leur nom, un pogrom anti-rom dans la région parisienne. Est-ce que quelqu'un, quelque part, tient la liste des actes anti-rom, souvent des actes emprunts et inspirés par un racisme qui n'a même pas besoin de se justifier, qui n'est jamais remis en cause et qui pourtant relève bel et bien de ce qu'il faut appeler du racisme. Aujourd'hui, retour sur la condition ouvrière. Vous vous souvenez de cet ouvrage des deux sociologues Stéphane Beau et Michel Pialoux. C'est un livre qui a fait un certain bruit. On s'en est inspiré et ça nous a aidé dans un nombre de reportages. Et voilà qu'un film sort qui s'inspire de ce travail. Un film de Patrick Jean qui va être publié sur France 5 dans les jours qui viennent et dont nous allons parler aujourd'hui avec donc nos invités en route pour Sochaux.
Chez Peugeot, nous avons envie de vous faire plaisir. La prochaine fois que vous viendrez voir nos modèles, une de nos hôtesses vous guidera jusqu'à la voiture, vous y installera, attachera votre ceinture, déboutonnera votre braguette et vous sucera violemment. Puis, elle lavera entièrement la voiture avec ses seins et son corps enduit de mousse. Quatre copines à elle viendront se joindre pour l'aider, dont une avec un fouet. Puis, elles feront un match de catch pour vous dans la gelette groseille. Un service de garde d'enfants est également à votre disposition. Si avec ça vous n'achetez pas une voiture, vous êtes vraiment des enculés. Peugeot, la passion de l'exigence.
Eh oui, c'est Daniel Mermet dans sa Peugeot avec Stéphane Beau, Michel Pialoux, le réalisateur Patrick Jean et Christian Courrouge de Peugeot, venu spécialement de Sochaux dans sa 400.
À Sochaux, village du Doubs, tourne inlassablement la grande usine Peugeot qui produit 2600 voitures par jour.
1971.
Sochaux n'a pas 3000 habitants et les 35 000 salariés qui y travaillent viennent de partout. Ces cars ne font pas seulement la navette entre les villages et l'usine, mais entre l'usine et ses cités, que la croissance constante de l'usine a fait sortir de terre autour de Sochaux. L'usine, nerf de tout ce pays, pénètre partout, s'insinue partout, apportant la vie, le travail et une certaine prospérité.
Rien que dans le ton de ce commentaire qui date de 1971, On sent toute la fierté, la prospérité, et on sent même dans le ton, hein, dans le ton simplement de ce speaker, on sent ce qu'était autrefois, non seulement évidemment cette entreprise, mais la fierté qu'on pouvait ressentir à y travailler. Le temps est passé, et le temps est tellement passé qu'il a effacé ceux qui travaillent dans cette entreprise. Il y a eu, on a assisté à une véritable disparition, à une invisibilisation du monde ouvrier et de la classe ouvrière. Et le livre de Pialoux et Beau, publié chez Fayard en 1999, soudain, même s'il y a eu d'autres recherches et d'autres signaux, a quand même étonné un peu tout le monde. C'est le fruit d'une longue enquête sur 10 ans. Pendant 10 ans, ces deux sociologues ont enquêté dans les usines Sochaux de Peugeot à Sochaux-Montbéliard. Et la première surprise qu'ils nous ont apporté, c'est cette disparition. Pourtant, les ouvriers en France sont bel et bien toujours le groupe social le plus important dans la société française, mais ils avaient pour eux la force du nombre, et peu à peu, eh bien, ils ont cessé d'être craints, et il s'agit là d'une rupture évidemment importante dans l'histoire sociale. Alors depuis un certain temps, des documentaires, d'autres ouvrages reviennent et s'intéressent à nouveau à la condition ouvrière, et je pense au film de Triard sur les prolos, je pense à ce film sur ressources humaines. Enfin, on voit qu'il y a un certain nombre de un intérêt qui est tout de même revenu. Pourquoi s'intéresser aux conditions de travail dans une entreprise comme Peugeot, ou bien comme nous l'avions fait avec Thierry Scharf sur une entreprise Renault en Normandie? Eh bien, parce que on va vers les causes. On espère, avec nos sociologues, là en l'occurrence avec le film de Patrick Jean, Ouvrier, c'est pas la classe, c'est le titre qu'il a donné à ce documentaire qui passera, je le rappelle, le vendredi 7 mai sur France 5 à 14h50. Faut pas louper, je répète, vendredi 7 mai, France 5 à 14h50. Pourquoi ? Parce que c'est tout un travail qui essaye d'aller vers les causes, vers la connaissance des causes. De quelles causes ? Eh bien, la cause, par exemple, entre autres, des violences urbaines. Et à leur livre sur la condition ouvrière, Beau et Pialoux ont produit un autre travail, une autre recherche, une autre enquête qui a donné un livre qui s'intitule « Violences urbaines, violences sociales ». Ils étudient là une violence, une émeute dans une cité, mais qui est à près de l'usine, enfin qui dépend de l'usine Peugeot, mais qui pourrait se situer n'importe où ailleurs. Et ils essayent, à partir de ces violences urbaines, d'en trouver les causes. Comprendre n'est pas excuser, hein. Ils essayent de comprendre les causes. Évidemment qu'ils trouvent des causes dans ces violences sociales, et ces violences sociales, eh bien, c'est celle de l'usine, c'est celle de l'usine qui rejette, qui exploite d'une façon qui a changé, mais qui reste tout de même de l'exploitation, et en plus où la fierté a peu à peu disparu. Alors, pour parler de ce film Ouvrier, c'est pas la classe, Patrick Jean, le réalisateur, Michel Pialoux et Stéphane Beau, les sociologues, et Christian Courrouge, travaille chez Peugeot à Sochaux-Montbéliard depuis 1969, qui est syndiqué à la CGT, qui pendant 15 ans a été délégué du personnel auprès de la direction, et qui sait de quoi il cause. Jusqu'à 18h, là-bas, si j'y suis, Ouvrier, c'est pas la classe.
Je suis à l'école, hein, à l'école. Je demande à chaque mec des cités, t'as quoi comme diplôme, enfin, comme brevet, tu vas sortir, j'ai un BEP, moi. BEP. Tu crois que tu vas faire quoi avec un BEP, hein? Et combien de millionnaires en BEP? Hein? Moi, aujourd'hui, tu vas voir la conseillère d'orientation, elle sort, ouais. Moi, j'ai un bon plan pour vous. Faites un BEP chaussure. Tu fais, moi, les gens, ils m'ont attendu pour marcher, moi. Hein? BEP chaussure. Elle va faire, alors, un BEP chaudronnerie, monsieur. Chaudronnerie enfoiré. Tu crois que je vais faire quoi avec un chaudronnerie, moi? Chaudronnier, hein? Tu crois que je vais faire quoi avec un chaudron? Genre, j'imagine, c'est un mec là, avec des casquettes sur la tête, des baskets, il rappe toute la journée, hein. Moi, je viens de Paris, hein. Je viens de Paris, je suis arrivé dans 19, dans ma thèse. J'avais 5 piges, j'en ai 23, mec. Tu vois? Et je peux te dire que ce que tu vis, c'est beaucoup, hein. Parce qu'il y a des gens qui ont été tués, des gens qui tombent à la drogue, des gens avec qui tu grandis, des amis qui deviennent fous. Ça fait beaucoup, quand même. Et ça, peu de gens savent. Parce que les journaux, ils s'en gardent bien de dire, parce que ça fout à la panique. Hein? Elle est partie où, la violence? Hein? Elle est partie où, la violence? Hein?
Patrick Jean, on est là autour de votre film, qui s'intitule « Ouvrier, c'est pas la classe ». Et, événement, un film comme celui-là, on va voir, passe sur France 5 le vendredi 7 mai à 14h50. Là, on a parlé de Stéphane Beau et Michel Pialoux et de leur livre sorti en 99, « Retour sur la condition ouvrière ». Et c'est vrai que ce livre a frappé tout le monde à cause du titre. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se remettait à employer le mot « ouvrier », un mot qui a disparu, et puis « condition ouvrière », et pourquoi pas alors carrément « classe », et voire même « lutte de classe ». Alors là, c'est des mots complètement dépassés, ringardisés, oubliés, disparus, et ça nous oblige à redemander à Stéphane Beau et à Michel Pialoux cette classe ouvrière devenue invisible. Alors, on va demander d'abord à Pialoux et Beau de nous reparler de cette condition ouvrière.
Oui, déjà, effectivement, sur le titre, le titre a joué un rôle, effectivement, retour sur la condition ouvrière, mais le titre de départ, c'était aussi les ouvriers après la classe ouvrière. On avait bien l'idée, dans ce titre, de bien dire les deux choses à la fois, les ouvriers continuent d'exister, ne serait-ce qu'au niveau démographique, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit aujourd'hui, puisqu'à l'époque, c'était pratiquement 6 millions, et pourtant, ils n'apparaissent pas dans les médias, on les voit plus, on les voit pas, alors qu'ils ont longtemps existé très fortement dans les représentations. Donc après, aujourd'hui, il y a quand même un petit changement. Le film de Patrick le montre bien, parce que finalement, on peut voir que du côté du monde ouvrier, aujourd'hui, dans les représentations, on voit bien qu'il y a un renouveau d'intérêt, notamment du côté des cinéastes, pour étudier cette réalité-là. Du côté des sciences sociales, je serais peut-être moins affirmatif.
Oui, en tout cas, Michel, il y a Pialoux, un centrement sur la question de nouvelles générations qui apparaissent et qui ont des caractéristiques différentes des anciennes. Bon, ça, c'est au centre de notre livre. On parle des transformations du travail et de l'intensification, de la densification du travail. Et on parle aussi beaucoup de l'école. Et le film de Patrick se centre sur un fait majeur qui a été la montée de l'intérim dans ces années 98-2001, et à travers cette question de l'intérim, c'est la question des nouvelles générations, de la précarité, du façonnement mental et intellectuel et politique aussi des jeunes qui arrivent, et de la distance qui s'est créée avec les anciens.
Dès le début du film de Patrick Jean, on voit d'abord un jeune retraité, hein, qui, après 41 ans de travail, est assez fier de dire qu'il a la médaille du travail, et qui raconte, voilà, il est assez heureux de son parcours, il est assez content de lui, il a accompli quelque chose au moins dans sa vie.
Un médaille, c'est la vie de l'homme. Quand même, il a travaillé pour avoir ses médailles. C'est comme dans l'armée. Il faut être bien de votre métier aussi, parce que l'armée, vous avez gagné, c'est pareil. Et je crois que moi, je suis fier de moi. J'ai les médailles d'argent, les médailles de fermeil, les médailles d'or, surtout les médailles de 40 ans.
Donne-moi le médaille d'or.
Et ça, ce n'est pas un navire d'argent, c'est un navire pour montrer aux jeunes, voilà, que ça existe.
très rapidement, on a un autre plan qui représente des jeunes, entre guillemets, qui nous disent, oui, c'est l'horreur, enfin, c'est l'horreur, c'est tout ce qu'on rejette, quoi.
Non, lui, nos parents, ils venaient, ils bossaient, ils disaient rien. Ils rentraient à la maison, harassés, et ils recommençaient le lendemain, sans jamais rien dire. Les enfants grandissent. Déjà, ils voient le papa qui rentre tous les soirs, qui est fatigué, qui est sur les rotules. Déjà, c'est choquant pour un enfant. L'enfant lui-même, il se dit, attends, pourquoi mon papa, il est tout le temps fatigué comme ça? Quand il grandit, il comprend. Il se dit, mon papa, il est fatigué comme ça parce que son travail est très dur. Et après, quand il développe son esprit critique, il y est lui-même dans le travail du papa, il se dit, mais mince, le travail, il est dur, pourquoi? Parce qu'il y a ça et ça et ça. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire en sorte pour que ça aille mieux? Il faut te dégager de cette image d'ouvrier. C'est pour ça que les plus jeunes, on essaye d'aller à l'école, qu'on essaye de faire autre chose, mais pourvu qu'on n'aille pas à l'usine. Je me rappelle aussi, c'est une image, quand j'étais plus jeune, on prenait le bus pour aller au lycée, et puis le bus faisait le tour par Sochaux et passait devant les usines. Alors on regardait souvent, on presque terrorisait les usines, puis il y en avait toujours un qui balançait de façon, quoi qu'on fasse, on finira là-dedans.
Donc là, entre ces deux premiers plans, on voit un saut complet, une fracture complète, Patrick Jean.
Oui, le saut et la fracture complète, c'est que déjà Christian m'avait dit, de toute façon, il s'avait montré cette séquence, il m'avait dit, attends, l'histoire de médaille du travail, de toute façon, les colifichets du malheur, et j'espère qu'il va m'aider à me rappeler qui avait écrit ça, c'était...
Prévert,
donc la réaction de Christian a été assez, quoi, tu filmes ça, les colis fichés du malheur, donc en fait je dis mais je filme ça parce qu'en fait je suis en train de vraiment de filmer une relation fils-père, quoi, au sens général. Donc après, quand je filme effectivement les jeunes qui disent jamais ça, c'est vrai que c'est assez monstrueux, cette usine qui est au plein milieu de la ville, avec des gens qui ont une culture vraiment de l'usine à travers la famille et qu'ils rejettent très très fort, mais vraiment très très fort, et on le sent vraiment. C'est-à-dire, faut faire autre chose, faut ressembler à autre chose. Et ce jeune qui est DJ à la radio là, il le dit avec une vraie force, quoi. Il le dit, ça en fait mal, quoi. Mmh. Et en même temps, il sait très bien qu'il fait pas plaisir aux anciens.
Christian Courrouge, là, qui cite Prévert. Vous êtes rentré à Peugeot en 69.
Oui.
Donc ça fait quand même 35 ans. Vous êtes syndiqué, vous avez été délégué pendant 15 ans. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes retrouvé dans le film, vous ou bien Peugeot, enfin cette...
Tout à fait, avec des choses que j'aurais pas montrées de la même façon, mais mais sentimentalement, oui, je me retrouve tout à fait. Je crois qu'on voit les images de l'usine il y a 15 ans, il y a 20 ans, et qu'on voit maintenant la colorisation des chaînes, etc., ces gamines d'origine étrangère qui arrivent, qui débarquent, maquillées, etc., dans les chaînes, je m'y retrouve tout à fait, c'est ce que je vis actuellement.
Vous êtes intérimaire ou vous êtes
pas dans... Oui,
vous aussi?
Oui.
Là, c'est un groupe d'intérimaires, en fait.
Là, oui. Vous êtes intérimaire aussi?
Intérimaire aussi, oui.
Vous êtes de Montbéliard?
Non, Besançon.
Besançon?
Ouais,
vous êtes de loin, alors?
Ouais, de loin.
Et vous habitez à Besançon?
Non, on habite là, on prend le car à la navette qui nous ramène ici.
Et c'est quelle maison d'intérim vous travaillez?
C'est intérim 25.
C'est intérim 25 aussi?
Non, à l'école, automobile.
Montpellier.
Oui.
Et vous avez choisi de venir à l'usine ou...
Comment?
Vous avez choisi de venir à l'usine? Vous avez fait des études pour ça ou...
Non, je suis venue parce que j'avais pas le choix.
Et avant, vous étiez quoi?
Étudiant.
En quoi?
Dans le commerce.
Alors, un point sur lequel vous insistez à plusieurs reprises dans le film, c'est la question du travail intérimaire, évidemment, cette précarisation. Ça, Christian Courrouge, ça c'est quelque chose de nouveau. Sur vos 35 ans chez Peugeot, c'est quelque chose que vous avez vu peu à peu apparaître, l'intérim.
Disons qu'il y a toujours eu un peu d'intérim, mais c'était pas comme ça que ça fonctionnait, quoi. Beaucoup d'émigrés dans les années 70 étaient embauchés en intérim par une agence qui s'appelait Nanota, très célèbre, parce qu'en même temps ils donnaient une carte d'intérim, un permis de travail, en même temps une carte de la CFT, du SIAP à l'époque, donc qui était un syndicat indépendant, donc la CSL chez à Poissy par exemple, hein, c'est tout à fait ça.
C'était un syndicat plutôt à droite.
Complètement à droite. C'est
oui,
pas, un peu, c'est complètement, voilà. C'est net. Où étaient beaucoup recrutés les casseurs, les niçois, etc. Je veux dire, c'est ça, ceux qui nous tapaient dessus, quoi. Bon. Après, après, il y a eu des contrats d'intérim, ça a surtout commencé en 89. Et en 89, au lancement de la 605, donc il y a eu la grande grève de Sochaux et de Mulhouse de cette semaine, déjà, on était pris dans les contradictions entre des plein de gamins qui étaient intérim, qui étaient très solidaires, mais qui n'étaient pas grévistes parce qu'intérim. Et on voyait vivre les deux mondes en même temps. Alors maintenant, c'est vrai que ça se ressent encore plus, parce que je crois que maintenant, la gestion des entreprises se fait plus que par intérim. Et c'est très perturbant pour ceux qui y sont, et très perturbant pour ceux qui sont intérim, parce que il y a deux populations qui cohabitent, qui se connaissent peu, il y a peu de passerelles. Une population qui a l'impression que ça peut pas continuer comme ça parce que les intérims font chier, parce que ils gagnent plus avec leur prime d'intérim, et l'autre population intérim qui est prête un peu à faire des concessions parce que est en embauche, quoi, à tout prix.
Ouais, ce qui est montré, c'est qu'au début, finalement, pour les plus jeunes, c'est pas mal l'intérim, hein. C'est ce que vous dites un petit peu, c'est mieux payé. Et puis voilà, ça fait de l'argent de poche. Il y en a un qui c'est comme un gros argent de poche un peu.
Oui, hein, et on est à une époque où en fait, d'un seul coup, les agences d'intérim se posent un peu comme les champions du monde du social, quoi. C'est-à-dire que la NPE c'est nul. Enfin, ils sont le vent en poupe. Ils sont à 30 nœuds, quoi. Ils sont vraiment très fiers. Et moi, à la limite, si les portes s'ouvrent, c'est parce qu'en fait, ils sont absolument sûrs d'avoir absolument raison. Et c'est cette contradiction-là qui arrive après, puisque en fait, la même année, quand je finis film, il y a effectivement les Twin Towers. Et
quel rapport avec les Twin Towers, je comprends pas.
Là, moi, je préfère m'en remettre à Stéphane et à Michel, mais Michel Pielloux,
Patrick veut dire que ça a été une secousse politique qui a eu des conséquences économiques, et la prospérité économique de l'industrie automobile française s'est un peu trouvée ébranlée à partir de ces moments-là.
On est comme une serpillère, en fait. Quand on a besoin de nous, on nous prend comme un
poisson. Et puis en plus, l'intérimaire, c'est qu'en fait, on peut travailler aujourd'hui, on fait ce boulot, la semaine prochaine, on fait un autre boulot. En fait, ce qu'on aura fait avant, ça ne nous sert à rien, puisque rien qu'on change. Rien qu'on peut faire l'agent de fabrication, dans un mois après, on peut faire magasiner carrément.
En plus, vous avez l'impression de ne pas progresser, parce qu'un jour on vous met là, un jour on vous met là, et jamais on va vous dire, tu fais ça pendant 2-3 mois, et puis après on va te former, tu vas avoir une qualification.
Ils disent, voilà, il faut continuer, ne lâchez pas, vous travaillez bien, ne vous inquiétez pas, par la suite on attend, ils attendent que les 18 mois se terminent, et boum, là c'est au revoir monsieur, et puis boum.
Je voudrais revenir sur les licenciements dont tu parlais, parce que ce qui est intéressant, c'est ça, cette facilité de débaucher ces jeunes filles et ces jeunes garçons. Moi, je me rappelle, c'était donc en 2002, où 3 jours avant Noël, 1500 intérims sont passés à la trappe, sans qu'il y ait un mot particulier à la radio ni dans les journaux.
Oui.
3 jours avant Noël, rien ne laissait supposer 15 jours avant, et brutalement, paf, 1500 dehors. Moi, je travaillais avec ces gamins et ces gamines comme ça, on avait eu l'habitude, ça faisait un an qu'on bossait ensemble, et du jour au lendemain, vous voyez plus, je dirais pas mes collègues de travail, mais les gens avec qui vous avez l'habitude de boire un café ou de discuter un peu avec. 1500.
Dans la gueule, oui, dans la gueule. La gueule, autant la gueule. Dans la gueule, oui, dans la gueule. Dans la gueule, autant la gueule.
T'échanges 2 mots avec ton collègue, on te dit tu parles trop. T'as besoin d'aller chercher de la marchandise ailleurs dans l'usine parce que t'en as besoin pour ta machine, pourquoi tu te balades? Donc c'est devenu, faut pas parler, faut pas que le boss il te croise en train d'aller chercher quelque chose au fond de l'usine. Syndicat, faut surtout pas en parler, faut pas se plaindre, faut dire t'es content, t'es d'accord. Je me souviens même d'un ouvrier qui m'a dit récemment, ne les contrarie pas trop. Parce que quand il nous avait montré un peu l'usine, ce qu'il fallait faire pour que ce soit nickel, que ce soit bien propre, j'avais posé la question, mais c'était ironique, hein, c'était pour rire, on est augmenté combien? Il y a même un employé qui est là-bas depuis 9 ans, s'est retourné, m'a dit ne les contrarie pas trop, tais-toi.
Christian Corolle, évidemment que pour une vie syndicale, il se passe plus rien avec les intérimaires. C'est une façon aussi de casser complètement toute la vie syndicale, toute action syndicale. Parce que vous venez dire les gens, voilà, tout d'un coup, ils disparaissent, donc vous pouvez pas construire quoi que ce soit.
On peut pas dire qu'il se passe rien. Ça rend les choses plus compliquées parce que la tenue des postes est faite par il y a du personnel permanent aussi qui reste du personnel embauché. Il y a quand même des gens qui sont embauchés continuellement. Donc il est évident que le militantisme repose sur ces gens qui sont embauchés en permanence. Mais il y a aussi cette façon les intérims ne sont pas ne sont pas en dehors. Ils savent très bien aussi que leur intérêt entre le moment où chacun fait son blanc de jouer un jeu, aussi bien l'agent de maîtrise qui dit on a viré les balayeurs, donc maintenant il faut que chaque salarié nettoie son poste de travail et donc les intérims nettoient leur poste de travail avant de partir. C'est un peu ce qui se passe dans le nouveau management. On payait une personne qui était à capacité restreinte pour donner un coup de balai, maintenant on l'a foutu dehors et c'est chacun qui se démerde. C'est le même temps de travail et pas rémunéré d'ailleurs davantage. Mais donc les intérims jouent facilement ce jeu-là par obligation. Ceci étant dit, sont très solidaires quand il faut et d'une façon très particulière des gens qui luttent ou qui font respecter un minimum de droits. Et donc les militants syndicalistes de l'usine. On voit bien les relations qu'il peut y avoir. Et il faut toujours se méfier des... Ils se syndiquent pas. C'est très difficile pour eux de participer à des manifestations, à un mouvement social. Il y en a quelques-uns quand même qui portent plainte au prud'homme pour avoir des contrats renouvelés. On a bien vu dans l'automobile, donc des intérims qui ont deux contrats consécutifs, alors que la loi oblige l'employeur à faire autrement, portent plainte et gagnent au tribunal, donc chez Renault, chez Peugeot, etc. Donc on voit bien qu'il y a quand même certaines manifestations qui se font. Il y a aussi ces intérims qui étaient en fin de droit, donc touchés de 2001, etc., et d'autres qui font appel par rapport au jugement, donc comme celui de Marseille, on voit bien qu'il y a un fond de lutte quand même. Donc il n'y a pas forcément opposition, il y a cohabitation évidente et obligatoire, parce qu'ils ne peuvent pas se syndiquer, parce qu'ils n'osent pas distribuer un tract, parce que c'est mal vu de lire le tract sur le temps de travail ou même à la portière, etc. Donc parce qu'ils visent toujours l'embauche. Et ça, c'est très compliqué. Ceci étant dit, en sous-main et en dehors, il existe des contact, quoi.
On divise. Bien sûr. C'est ça.
Ah non, mais moi, je crois qu'il y a l'intention politique de diviser en permanence. Il y a cette façon de gérer. Mais vous savez, sur les chaînes de montage, ça a toujours été comme ça. On disait, là, tout à l'heure, vous disiez que dans le film, il y a quelqu'un qui emploie le terme de germinal. Moi, je vais vous dire le mot qui est... Moi, je travaille dans un petit atelier en bout d'usine. Le mot qui est choisi pour dire aux gens qui ne font pas bien leur travail dans les canons de la direction ou de la maîtrise, c'est de leur dire « Est-ce que tu veux que je te remette à la mine ?» Voilà. Mais ça, c'est le discours tenu par les cadres. « Est-ce que tu veux aller à la mine ?» Voilà. Ça montre bien la dureté et en même temps la possession qui existe dans ces grandes usines d'avoir des plus mauvais postes encore que ceux occupés. Il y a toujours plus mauvais. Et eux, ils les connaissent particulièrement. Et je crois pas au hasard. Je crois que c'est scientifiquement, sur une équipe, il y a peut-être 5 postes qui sont supportables, 5 un peu moins et 5 très très mauvais. Et c'est la punition, c'est ça. T'es malade, t'iras sur un poste plus mauvais. T'es à la CGT, t'iras sur un poste mauvais. Tu réponds à ton chef, t'es puni comme un gosse, quoi. On le fout au coin. Et ça, c'est les postes de punition qu'on appelle ça sur les chaînes. Ils ont toujours existé. Sauf que maintenant, les conditions de travail étant de plus en plus dures, ça devient de plus en plus dur de résister à ça. Et il n'y a pas grand monde pour en parler, hein. Faut avouer que...
Il y a Stéphane Beau, par exemple.
Non, mais c'est un peu, c'est un prolongement par rapport à la question de l'intérim, que Michel en parlera peut-être plus sur le travail, mais en prolongement de l'intérim, je crois que la difficulté aussi des syndicalistes de syndiquer ces gens, c'est que un certain nombre de ces jeunes ont intériorisé, dans le film, pour revenir sur le film de Patrick, il y a une très belle scène où, en agence d'intérim, où on voit un jeune à casquette qui arrive et qui, cherche un boulot, des missions d'une journée. On lui propose des missions d'une journée, il dit toujours OK, il est prêt à tout. Tu peux aller à 4 km, pas de problème. T'as une voiture? Non, j'ai pas de voiture. J'ai un vélo, donc il va faire 7 km le matin, il va revenir en vélo, il est très mobile grâce à son vélo, quoi. Quand on voit cette scène, on voit effectivement là aussi la pression que fait peser le marché du travail sur ces jeunes, et ils sont prêts à accepter beaucoup pour entrer, pour mettre un pied sur le marché du travail.
Et ça, peu de gens savent, parce que les journaux ils s'en gardent bien de dire, parce que ça fout à la panique, hein. Elle est partie où, la violence, hein?
Alors vous êtes disponible là? Je sais plus, vous avez un véhicule là?
Non. Un vélo, un VTT.
Un vélo, ça risque, ouais. Parce que moi j'ai une mission à vous proposer, donc en tant que manutentionnaire, pour travailler pour Laser Evolution.
D'accord.
Avec
ça. Ouais, c'est à 1 km de chez moi.
Ça va?
J'habite sur Figrand Charmont.
Le Cora. Pour demain matin. J'ai une mission, donc ce serait pour travailler de journée. Donc 7h30 midi, 13h30, 17h.
Impeccable.
Vous avez des chaussures de sécurité? Et bien,
à l'école, hein, l'école. demande à chaque mec des cités, ça quoi comme diplôme? Enfin, comme brevet, lui. Il va sortir sur un PEP, moi. Ça fait beaucoup quand même. Mais ça, peu de gens savent. Peu de gens savent, mec. Peu de gens savent.
Peu de gens savent. On est avec Patrick Jean, réalisateur de Ouvrier, c'est pas la classe, un film documentaire qui va sortir, qu'on va pouvoir voir sur France 5 vendredi prochain, vendredi 7 mai à 14h50, et qui raconte la vie dans l'usine Peugeot de Sochaux Montbéliard. Ça pourrait être dans d'autres grandes usines. C'est l'occasion de revenir sur le livre et le travail de Michel Pialou et Stéphane Beau. Le retour sur la condition ouvrière. Nous avons aussi un autre invité qui est Christian Courrouge, qui travaille chez Peugeot depuis maintenant 35 ans. Michel Pialou.
Oui, dans la même logique, quelque chose qui nous a beaucoup frappé, c'est que on a évoqué déjà les équipementiers des environs, mais au moment où il y a eu ce formidable essor dans l'usine de Sochaux, il y a plusieurs centaines d'ouvriers et d'ouvrières qui avaient été embauchés dans des usines d'équipement et qui avaient réussi à avoir un CDI, qui ont quitté ces usines pour venir travailler en intérim à Sochaux. Il y a beaucoup des centaines aussi de jeunes femmes qui travaillaient dans les grandes surfaces de la région en CDI, qui ont quitté pour venir à Sochaux. Donc ça donne une idée de la violence des relations dans lesquelles elles sont prises dans ces nouvelles usines. Parce que ces nouvelles usines d'équipementiers ont été montées il y a 7 ou 8 ans. Hein. L'apparence extérieure est très moderne, mais le management est très dur. Les conditions de travail sont vraiment violentes. Et à ce moment-là, Sochaux fait presque figure, non pas de lieu paradisiaque, mais de lieu où on peut respirer, où il y a encore des vieux délégués pour maintenir un certain rapport de force. Et délégué, ça, c'est troublant.
Le vieux délégué, Christian, donnez-nous une idée des salaires chez Peugeot.
Ah, les salaires chez Peugeot, s'il y a, après 60...
En francs, parlez-nous en francs.
C'est mieux en francs. Hein. je dirais que quelqu'un qui travaille en chaîne à l'heure actuelle gagne 7 300 balles. Travaillant en doublage, ça veut dire en horaire décalé.
7 300 francs, c'est net, évidemment.
Net. Avec un 13e mois... Et une prime à Noël, quoi. Donc, un 13e mois, divisé en deux, la moitié à Noël, la moitié au congé.
Voilà. Ça, c'est le salaire de quelqu'un qui est sur la chaîne.
Sur la chaîne.
Alors, d'ailleurs, on voit dans le film, on dit pas à la chaîne, on dit en chaîne.
Hein. Non, mais c'est mieux, on dit même plus en chaîne, on dit en ligne.
Oh là, ouais.
Ah ben non, le discours patronal a beaucoup changé quand même.
Ça, c'est ensuite les autres salaires?
35 ans chez Peugeot, on arrive à, en chaîne, à 8700 francs. Et après, c'est à la tête du client. Je veux dire, les salaires peuvent varier de 1000 francs. Suivant la personne, en faisant le même poste. Autant il y a 30 ans, on était payé au poste et tout le monde avait la même paye, autant maintenant, les salaires ont été individualisés. Donc suivant sa présence, suivant l'acceptation des heures supplémentaires, suivant si on balaye son poste ou pas, suivant avec qui on discute, suivant l'état d'esprit dont on fait part, suivant si je vais à la finale avec mon chef d'atelier voir Sochaux contre Nantes, j'aurai peut-être une augmentation. C'est ça qui est en jeu. Et c'est ça qui a changé ces dernières années.
C'est pour combien d'heures, ça, les 8700 francs pour 35?
Alors, ça devient compliqué. On a bien 35 heures à ce show, sauf qu'on en fait 37 heures et demie, quoi. Bon, alors, c'est très compliqué. Enfin, 35 heures, donc.
L'atelier HC1 de Sochaux. Ici, on conjugue efficacité et sécurité sur 50 000 mètres carrés. Économie des gestes, des déplacements. Les ouvriers postés sur des tapis roulants font littéralement corps avec leur voiture. Ceux qui travaillent sur cette chaîne portent des vêtements assortis aux couleurs de l'atelier. Ce sont les hommes en vert. Ils viennent des anciens ateliers choisis, sélectionnés par la maîtrise. 3 semaines de stage et ils intègrent leur nouveau poste de travail encadré par un moniteur.
Ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, cette disparition du monde ouvrier, de la classe ouvrière, elle se manifeste à travers aussi des reportages qui nous ont montré de plus en plus de robots, de plus en plus des lignes où il y a un élément dans le film de Patrick Jean qui date des années 80, ou les ouvriers en chaîne, en ligne, comme on voudra.
Les hommes en vert.
Les hommes en vert sont habillés de la même couleur. On porte des cottes, hein, de la même couleur que la chaîne de voitures sur laquelle ils travaillent, etc. Voilà. Enfin, ça devient le paradis, quoi. Ça devient formidable de travailler dans ces conditions.
Ce qu'on ressent surtout, c'est bien là où bascule le film d'ailleurs, c'est qu'il y a un moment donné, je pense qu'il y a une moins de pénibilité, comme dit un des personnages du film, l'ingénieur, le jeune personnage qui parle de son père, c'est moins pénible physiquement, mais il y a une autre forme de violence qui est une violence qui est de l'ordre du temps, de l'espace-temps. Enfin, et je pense que Christian en parle mieux que moi de ça, du temps. C'est
Christian, sur 35 ans, plus dur, moins dur aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé?
Bon, moi, c'est compliqué parce que j'ai changé de pose, donc je peux pas forcément être clair là-dessus. Mais je dirais, à mon avis, en voyant le travail en chaîne, plus dur. Mais plus dur pour plusieurs raisons. On améliore bien le poste de travail, après tout, oui, pourquoi pas. Sauf qu'on va obliger, suite à l'amélioration, on a tellement amélioré son temps qu'il va monter le double de bagnole. C'est 76, 44 000 personnes fabriquent à peu près 2 000 bagnoles. À l'heure actuelle, 8 000 ouvriers, alors je dirais 18 000 en tout, puisque on est resté cadre ingénieur à 18 000 à l'heure actuelle, on fabrique aussi 2 000 bagnoles.
Attendez,
par jour.
Pour commencer, parce que c'est pas clair.
Bah, si, c'est clair.
Attendez, vous êtes combien, M. Peugeot, en ce
À l'heure actuelle, 18 000.
18 000, d'accord.
En 76, par exemple, on était 43 000. On fabriquait 2 000 bagnoles, et maintenant on fabrique aussi à peu près 2 000 bagnoles aussi. Voilà les chiffres. Ces 2000 bagnoles, elles passent bien devant les gens. Je veux dire, à une vitesse accélérée. Puisqu'il y a moins de monde, faut bien que la vitesse de chaîne s'est accélérée. Bien sûr, les aménagements techniques ont eu lieu. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des visseuses, de visser les panneaux de porte, dans les portières, etc., tout l'habillage des portes, on ne visse plus les panneaux. Par contre, on met des butées. Ça veut dire qu'on tape avec le poing sur des butées. Il y a aucun problème, ça se clipe. Sauf que entretenir une visseuse et puis clipper, le choc n'est pas le même. Alors on assiste à des maladies articulaires très graves. Et c'est ça le fond du problème de la productivité. La productivité fait ça. S'il n'y a pas d'intérim à l'heure actuelle, s'il n'y avait pas dans l'usine à l'heure actuelle, on peut penser qu'il y aurait 30% des gens qui seraient absents pour maladies professionnelles. Donc le volant intérim permet d'user ces jeunes rapidement, et quand ils commencent à porter des traces vraiment de l'usure, eh ben on les fout dehors, on en prend d'autres. Avec la bénédiction et des pouvoirs publics, et tout le monde, puisque, après tout, on peut imaginer que ce soit surveillé médicalement, par la Sécu, par l'inspection du travail, etc. Pour l'instant, voilà, c'est comme ça, on fait un constat. Un constat grave. Parce que, on sait très bien que Peugeot, comme d'autres constructeurs, joue, soi-disant, la concurrence entre eux, et donc, qui c'est qui paye? C'est toujours celui qui est au bout, c'est celui qui monte les panneaux de porte. Mais je parle des panneaux de porte, je peux monter les sièges. Mon gosse a été scolaire à l'usine, il a monté des sièges, 1m80 dans les sièges cassés en deux dans les trois portes pendant 2 mois. C'est inimaginable. Et on me dit, on améliore les conditions de travail. Moi, je travaille dans un atelier. Avant, c'était un petit atelier de retouche qui était vitré où on voyait le soleil. Chose rare dans les usines actuellement. La modernisation est passée par là. On nous a mis un tapis au lieu d'une chaîne. Donc c'est un tapis. On marche plus. Hein, on se déroule maintenant. On se déroule. On nous a supprimé les fenêtres. Donc on a des tôles. Voilà.
Hein? Elle est partie où la violence? Hein? Elle est partie où la violence? Hein?
Moi, ça fait 10 ans que je pars pas en vacances. Parce que j'ai pas un salaire qui me le permet. 10 ans que je pars pas en vacances et il y a plein de gens qui sont comme moi, hein. Faut pas croire, hein. Je veux dire, il y a des gens, bon, même s'ils sont intérimaires, hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils vont, que c'est pas qu'ils sont intérimaires qu'ils vont partir en vacances du jour au lendemain. C'est des gens quand même qui vivent au jour le jour. Ils n'ont pas d'autre choix, parce que de toute façon, la société, elle fonctionne comme ça, et puis que c'est presque normal.
Mais les femmes qui travaillent la nuit, bien souvent, c'est des femmes qui sont seules, avec des enfants, qui sont déjà d'un âge à être capable de se garder tout seul la nuit. Ça leur évite des frais de gardienne, et ça leur donne 300 ou 400 balles en plus.
Et ça, peu de gens savent, hein? Elle est partie où la violence? Hein? Elle est partie où la violence? Hein?
Il n'y a pas de moyen plus violent de coercition des employeurs et des gouvernements contre les salariés que le chômage. aucune répression physique, aucune troupe qui matraque, qui lance des grenades lacrymogènes et ce que vous voulez. Rien n'est aussi puissant comme moyen contre la volonté tout simplement d'affirmer une dignité, d'affirmer la possibilité d'être considéré comme un être humain. C'est ça la réalité des choses.
Christian Corrouge, je voudrais qu'on revienne sur une chose. Vous êtes rentré chez Peugeot en 69. C'était le plein emploi, 69.
Oui. C'est ce qui se dit, oui.
Quoi?
C'est ce qui se dit, puisque le plein emploi, il y a des régions qui avaient le plein emploi, il y en avait d'autres qui en avaient moins.
Chez Peugeot, c'était comment?
Bah, c'était le plein emploi chez Peugeot, après 68, c'est vrai que mais moi, ma région d'origine, c'était pas le plein emploi. Je veux dire, le Nord-Pas-de-Calais, c'était pas le plein emploi, le Midi-Pyrénées, c'était pas le plein emploi, puisqu'on s'est retrouvé quand même 1000 jeunes travailleurs à venir de régions différentes pour trouver un job. Ça veut dire qu'il y en avait pas chez nous, sinon on serait jamais parti. Donc, comme quoi, le plein emploi est très discutable, quoi.
D'accord. Ben, prenons Peugeot, hein, vous y rentrez en 69. Et quelle est l'importance du spectre du chômage, la terreur du chômage sur les comportements des uns et des autres et sur les conditions de travail?
On a commencé à voir ces...
C'est pas dans le film, hein,
non, on a commencé à voir apparaître ces choses-là à partir de 84-85. C'est encore une grosse boîte. Ça veut dire que, je vois dans ma génération, peu de gens, de copains, de copines, se sont posé le problème par rapport au chômage. Quand on était rentré dans cette usine, fallait vraiment faire une faute grave, veut dire, pour être viré, quoi. C'était quelque chose où il y avait quand même on y restait, on faisait carrière, entre guillemets, on faisait sa vie dans cette usine, quoi. Voilà. C'était un peu ça, hein. Et à partir des années 80-85, le chômage n'a pas tellement été pour les anciens. Même encore maintenant, il est pas tellement pour moi. Alors qu'on a, pourtant, il y a eu des périodes de chômage, mais du chômage partiel. On chômait 2 jours par semaine, par exemple, parce que les voitures se vendaient pas, etc. C'était d'autres formes de chômage. Mais notre poste de travail, notre contrat de travail n'a jamais été mis en cause. Par contre, le problème s'est posé pour nos enfants, et rapidement. Dans les années 80-85, il y a commencé à y avoir ce chômage, donc la non-embauche, la fermeture des bureaux d'embauche, et les enfants des ouvriers sont restés dehors, ce qui ne se pratiquait pas avant. Avant, ils allaient chez un sous-traitant, ils allaient à Beaulieu fabriquer des mobilettes ou des vélos, et après, ils récupéraient, ils revenaient dans la maison mère, alors que là, brutalement, tout s'est fermé. Et ça, c'était donc les parents, pour avoir une chance d'embauche pour leur enfant, ont commencé donc à jouer avec, comment qu'on pourrait dire, les carte syndicale. On arrête de syndiquer là au départ. Hein. On n'est plus dans la bagarre, on reste sympathisant. On voit bien au niveau des votes ouvriers, je veux dire, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Ça reste majoritairement sur les chaînes à 70% CGT, je veux dire, donc c'est pas quelque chose qu'a bougé. Par contre, on manifeste moins, on débraye plus, on prend plus de carte syndicale. Et puis après, on commence à aborder le problème, là, je prends une carte AFO ou à la CFTC, parce qu'il y a peut-être bien une possibilité d'embauche pour mon gosse. Donc on commence à rentrer dans une logique terrible. On veut donner une chance de plus à son gosse. C'est un peu comme ça que je l'expliquerai. Ça, c'est la peur du chômage. C'est comment on arrive à faire pression sur les parents pour enlever le contenu politique, social, culturel, d'intégrité qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, pour en faire des espèces de gens qui voient la fin de leur vie professionnelle arriver, et puis leur gosse qui est dehors, parce que voilà. Et il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que le gosse d'ouvrier, même s'il a Bac plus 3, même s'il a un BTS, mais s'il se fait embaucher chez Paccard comme intérim, il tournera 6 500 balles par mois. C'est ça le fond du problème. C'est vrai que ça pose un problème et au père qui a payé des études, je veux dire, à ses enfants et qui en même temps voit cette situation se dévaloriser de plus en plus. Et alors, prêt à faire des compromis pour le faire réintégrer à la maison mère, si toutefois il y a une chance.
On s'est tout pris dans la gueule.
C'est comme si on gérait un stock. Par exemple, on sait que là, à cette période-là, il nous faut 20 000 échappements. Là, il nous faut 50 000 échappements. Là, il nous faut 200 000 échappements. À cette période-là, on va prendre 500 intérimaires. Hein, on va les faire travailler à fond. L'autre période, on en prendra 200 de plus pour les faire encore travailler encore plus. C'est-à-dire une production, vraiment une cadence. Et l'autre période, par exemple, il faudra 5 000 échappements. Eh ben, on les vire tous. Et voilà. Ça s'appelle une gestion, ça. C'est gérer... C'est ça, ça fait partie d'une gestion économique peut-être. L'entreprise, elle fait des économies, voilà. Au lieu d'avoir 700 embauchés qui travaillent qui travaille une période, une cadence, une faible cadence pendant toute l'année. Une cadence normale. Voilà.
On va finir avec Christian. Vous avez l'impression d'être géré comme des stocks maintenant?
Oui, de plus en plus. Bon.
Des tas de pots d'échappement.
Non, pas des pots d'échappement, parce que c'est vraiment trop laid, un pot d'échappement. Il y aurait plus valorisant dans une bagnole. Non, mais c'est vrai que cette façon de gérer, et moi je l'ai vécu la semaine dernière dans mon propre atelier. Je veux dire, il y a eu le lancement de la 307 cabriolet, donc on a fait venir des retoucheurs professionnels du Nord en intérim. Le lancement est fini, et ben on les a virés, quoi. Voilà, au revoir, salut. Là, autant de mecs qui bossaient avec nous depuis presque un an, ben on les voit plus, quoi. C'est un peu comme ça que c'est géré, là. Où c'est compliqué, c'est parce que il faudrait revenir à des analyses plus politiques, parce que où c'est compliqué, ça, c'est la rançon d'un malaise politique qui date de 20 ans, où on nous a dit il y a des pauvres, il y a des sans logis, il faut donner, il faut partager, il y a plus beaucoup de travail, il faut partager. Alors nous ouvriers, on est un peu cons, hein, on a dit ben ouais, après tout, on est peut-être un peu salaud de revendiquer des salaires, parce que quand même, on a déjà un job, quand même, c'est déjà pas mal. Alors, on a un peu fermé nos gueules. Ça s'est pas dit comme ça, mais concrètement, ça s'est passé un peu comme ça. Puis après, on nous a expliqué que, pour les retraites, c'était pareil. Il y aura plus de sous dans les caisses de retraite, donc on s'en fout, on analyse pas les choses.
Et
on
puis sait c'est pas la sécu, là, maintenant.
Ouais, mais les retraites, on n'a pas analysé qui décédait le plus vite. Est-ce que le prolo qui a tiré 40 ans de chaîne décède comme un PDG à 78 ans? Combien de temps il va bénéficier de sa retraite? Mon beau-père, moi, il est mort à 63 ans, il avait travaillé en chaîne. Mon père, moi, était ouvrier à Cherbourg sur les sous-marins atomiques, il est décédé à 59 ans. C'est quand même pas eux qu'on bouffait les caisses de retraite. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique une fois, concrètement. Et à force de vouloir nous expliquer tout en détail, nous rendre coupables, etc., eh ben, on n'a plus de projet politique et tout se barre. Puisqu'on est des bons à rien, des feignants, nos gosses n'arrivent à rien dans les études, ils sont intérim. Pour être intérim maintenant, faut dire bonjour monsieur, au revoir monsieur. Même pour travailler dans une usine, toujours être poli, toujours est à l'heure, jamais engueuler quelqu'un. Mais c'est pas possible, on n'aurait pas pu vivre comme ça dans ma génération. On envoyait chez les cons, enfin c'était ça quand même. On se barrait d'usine, on prenait un bon de sortie, on s'en allait. Mais ils venaient nous rechercher parce qu'ils avaient besoin de nous. On en est dans une autre dimension. Moi ce que j'espère, c'est qu'il y a à nouveau un climat de révolte qui se fasse, qui se reproduise, qui vive le long des chaînes, et qu'on devient quand même un peu, qu'on repousse un petit peu quand même un cri de liberté. Pas d'unité, ni... Non, de liberté, simplement, de liberté d'être moins con. Moi, le vote Le Pen aux élections, c'est le manque de culture. Il est temps de redonner de la culture et de l'intelligence à tous les cerveaux de ces gamins qui en ont manqué. Il faut y aller. Je veux dire, et c'est pas qu'un mot. Il faut y aller dans les structures, faut y aller dans les usines, faut y aller partout.
Christian, mais qui y va?
Ben pour l'instant, on n'est pas nombreux, parce qu'il y a peu de délégués ouvriers, et souvent ils sont pas entendus, et ils n'ont pas de moyens. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Mais maintenant, il y a Michel Piaillot, il y a Stéphane Beau, il y a Patrick Jean, il y a aussi à nouveau des intellectuels qui se réoccupent, ou qui se préoccupent du mouvement ouvrier, et ça, c'est une bonne chose. Reste à savoir, et j'espère que c'est pas une façon d'une mode, et que ça va se passer rapidement. J'espère qu'on va pouvoir reconstruire, et que ces sociologues, ces chercheurs vont pouvoir recommencer, ces cinéastes, on va pouvoir recommencer à travailler sérieusement sur une longue durée sur le contenu d'un message, d'une histoire qui n'est pas finie et qui a permis à des millions de gens de vivre mieux. Et il faut pas que ça disparaisse, c'est un peu ça. Changeons le contenu politique de ces quartiers autour des usines, etc. Changeons les écoles à côté des usines. Arrêtons de foutre un gosse qui habite dans un HLM en loisir à côté de son HLM et à côté de l'usine pour qu'il en mange bien. Arrêtons que ce gosse de prolo qui voit le FC Sochaux se bariole la gueule à coup de bleu et jaune, les couleurs du FC Sochaux. Moi, j'en ai marre de voir ça. Je ne supporte plus. Je suis en révolte. Rien que pour faire chez mon patron, j'irai soutenir l'équipe d'en face, quoi. Mais c'est pourtant vrai. C'est une révolte légitime. Trop, c'est trop.
Le monsieur de chez Peugeot a quelque chose à vous dire.
Merci à tous, merci à Christian Corrouge, merci à Michel Pialou et Stéphane Beau. Je rappelle le film de Patrick Jean, Ouvrier, c'est pas la classe, qui vous pourrez voir donc ce vendredi 7 mai sur France 5 à 14h50. Et une fois encore, je rappelle les bouquins de Beau et Pialou, Retour sur la condition ouvrière et Violence urbaine, violence sociale, deux bouquins chez Fayard. Technique aujourd'hui, Michel Baldassari et Clotilde Thomas. Je suis Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert, c'est l'équipe de La Basse, j'y suis. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37 et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Désolé pour ceux qui attendent le moment formidable de la pub. Il n'y aura pas de pub aujourd'hui, mais on les passera toutes un jour pendant une heure. On passera toutes les pubs qu'on a manquées. On se retrouve demain à 17h pour la base. Si j'y suis, je vous laisse pour le journal avec Laetitia Gaillet. Salut.